La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du 158e numéro de la mêlée de l'info, l'avant-dernier avant la coupure des vacances et le passage de Radio Présence en grille d'été. L'actualité politique reste encore largement dominée par les suites de la dissolution de l'Assemblée nationale et la perspective des législatives à la fin du mois. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. À ses côtés, Patrick Coste, ex-cadre d'éducation nationale, ancien proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence, et Hugo Sajot, référent Haute-Garonne du parti Place Publique, soutien du Nouveau Front Populaire. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de cette émission. Dès l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les états-majors des partis de gauche de l'ex-NUPES ont mené des discussions pour sceller un accord permettant d'avoir des candidatures communes dans la majorité des circonscriptions. Les négociations ont abouti rapidement, non sans douleur. Cependant, elles ont débouché sur une coalition rebaptisée Nouveau Front Populaire, qui va du Parti Socialiste Place Publique au NPA de Philippe Poutou, en passant par les écologistes, le Parti Communiste et la France Insoumise. Que vous inspire cet accord, alors qu'il paraissait assez improbable il y a peu encore? Et puis surtout, il paraissait improbable que la NUPES survive aux européennes, entre autres en raison du désaccord de fond entre Place Publique de Raphaël Glucksmann et la France Insoumise sur le conflit Israël-Hamas. Vous semble-t-il reposer sur de véritables convictions et valeurs communes plutôt que sur de simples intérêts électoraux bien compris? Voilà les questions que je me pose et que je vous pose. Et nous allons commencer avec Annie Thomas.
Bonsoir à tous. Eh bien, c'est une question qui est extrêmement importante parce que je dirais que l'unité est à gauche. Quand on est unitaire, en général, c'est toujours un plus, c'est toujours intéressant. Vous avez raison de poser la question de savoir si c'est la NUPES numéro 2 ou si c'est autre chose. Bon, pour ma part, c'est autre chose. Bien évidemment, c'est un nouveau Front Populaire. Je pense que des leçons ont été tirées. Et aussi et surtout, ce Front Populaire a décidé de hiérarchiser les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, et surtout de faire barrage au Front National. Et je pense que tout n'est pas contenu dans cela, tout n'est pas contenu évidemment dans l'objet, bien évidemment. On peut en discuter les modalités, on peut discuter tout ce qui construit ou le programme par exemple, mais je dirais qu'il y a une chose qui est très claire, c'est d'une part une démarche unitaire, et ensuite c'est une démarche pour contrer le Front National, pour se mettre en situation aussi, peut-être, de diriger la France. Je veux dire qu'il y a une ambition qui est affichée. Ce n'est pas si souvent. Vous savez que la gauche, depuis quelque temps, affiche des ambitions de ce type-là, avec sa diversité, bien évidemment, mais c'est une ambition. Je pense que c'est intéressant. Il faut prendre cet accord comme un accord de législative, c'est-à-dire pour la durée de cette mandature. Ce n'est pas un accord ad vitam aeternam, bien évidemment. Il pourra être révisé. C'est un accord qui a écouté ce que disent les Français, qui demandent une urgence sociale, en particulier autour du pouvoir d'achat, et qui se projettent malgré tout sur le futur, qui est très important, qui est le changement climatique. Je pense que c'est dans cet accord qu'on ne passe pas sous la table la difficulté du changement climatique et surtout la nécessité de faire part barrage à cela aussi et de construire une politique pour cela. Donc cet accord, il est délicat, je vous l'accorde. Il peut se faire s'interroger. Je le crois sincère dans le terme de l'objectif est posé et il est majoritaire. Unité et combattre le Front National.
Donc pour vous, il n'y a pas que de simples intérêts électoraux derrière, il y a de véritables convictions et oui. Un projet commun.
Oui, il y a un projet commun, il y a des valeurs communes et il y a une obstination politique, je dirais, de construire autre chose.
Hugo Sajot, vous représentez Place Publique ici. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on a pu s'étonner que finalement Raphaël Glucksmann ait rallié le Nouveau Front Populaire et à sa suite tout votre parti. Est-ce que ça a été aussi simple que ça en interne?
Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que nous avons mené une belle campagne lors des européennes, que nous avons soulevé un espoir dans le pays, mais aussi en Europe. L'espoir de voir revivre une gauche social-démocrate, ancrée sur un programme cohérent, clair sur l'ensemble des valeurs, que ce soit la solidarité, la lutte contre le racisme, mais aussi contre l'antisémitisme, l'attachement à l'Europe, un attachement pro-européen. Et parce que oui, il a été difficile d'accepter une alliance avec une gauche qui est plurielle. Et pour le coup, c'était nécessaire et Raphaël Glucksmann a pris ses responsabilités, le parti a pris ses responsabilités vis-à-vis de la menace. La menace d'extrême droite est présente et on peut avoir dans quelques semaines un gouvernement de fachos, pardonnez-moi, en France. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu de l'hésitation, mais pas longtemps. Pas longtemps parce qu'il s'agit d'une responsabilité historique que de porter ce rassemblement de la gauche pour faire face aux idées les plus nauséabondes, aux idées qui ont marqué évidemment l'histoire de notre pays, mais l'histoire aussi de l'Europe. Donc voilà, le Front Populaire est né avec un programme, il faut le dire, un programme qui est ambitieux et qui est extrêmement large. Place Publique y a défendu d'ailleurs ses positions, la lutte contre la Russie de Poutine, la résistance pour la résistance ukrainienne, la lutte contre l'antisémitisme sans aucune forme d'ambiguïté, la lutte pour une Europe plus puissante, plus écologique, un attachement à l'Europe, toutes les mesures et aussi sur la méthode que nous avons portée lors de cette élection européenne. Et puis le Front Populaire, c'est pas la NUPES 2, c'est aussi un rassemblement qui est bien plus large avec les syndicats qui se positionnent, qui soutiennent le Front Populaire, aussi avec les ONG de tout type, que ce soit des ONG pour les droits LGBT, les ONG pour les droits environnementaux. C'est un Front Populaire extrêmement large qui appelle d'ailleurs à encore à s'élargir. Et c'est pour cette raison que nous soutenons ardemment ce Front Populaire.
Alors, on reviendra sur la question de l'antisémitisme, parce que ça aurait pu être, et ça a sans doute été une pierre d'achoppement avant que Place Publique et Raphaël Glucksmann acceptent de rejoindre le nouveau Front Populaire, donc une coalition où il y a la France Insoumise. Maintenant, je pose les mêmes questions à Patrick Coste. Vous, est-ce que vous avez l'impression, comme Annie Thomas, que ben, ce projet, cette nouvelle coalition à gauche, repose sur de véritables convictions communes, sur un programme commun, bien ancré à gauche, qui prend en compte les problèmes posés par le changement climatique, les problèmes sociaux, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière quand même de véritables intérêts électoraux un peu plus basiques?
Alors moi je voudrais partir d'un préalable, là, parce qu'autour de la table, les invités dont je suis sont des gens de gauche. Et donc, bon, on peut, à l'occasion de cette émission, faire une sorte de déclamation de l'unité, qui est un encouragement pour des électeurs qui seraient hésitants de s'inscrire dans cette dynamique de rassemblement, d'association des groupes de gauche dans ce moment-là. Je vais préférer prendre une autre optique que la déclamation comme ça d'un programme unitaire et plutôt essayer, alors même que je suis quelqu'un de gauche et que dans mes finalités, je prendrai les mêmes décisions que les deux autres invités qui sont ici. Mais mon intention est plutôt de rentrer dans les contradictions de cette association.
Ils n'ont pas été trop abordés pour l'instant.
Parce que ceux auxquels je pense aussi, ce sont des électeurs potentiels qui pourraient se ranger en résistance contre la menace que représente l'élection de l'extrême droite, qui évidemment est une catastrophe historique. Pour des gens qui ont des valeurs de gauche.
Qui serait, puisqu'on n'en est pas encore là.
Mais il y a un certain nombre d'électeurs qui partagent ces valeurs de gauche et qui sont dans une sorte de bégaiement de la décision avant d'en arriver à la résistance finale. Et donc, ces contradictions, quelles sont-elles? Alors, je crois que d'abord, il est important pour les resituer de contextualiser de façon assez pratique comment cette association s'est construite. C'est une sorte d'association fabriquée quand même. Parce que si on regarde l'antériorité récente des conflictualités qui pouvaient y avoir chez ces gens de gauche et le retournement, presque l'effet de conversion qu'il y a pu y avoir au moment où il y a eu la dissolution, c'est comme une sorte de tremblement de terre des significations qui s'est opéré comme ça dans ce moment de conversion. Bon. Il faut le rappeler, cette intériorité. Hein. Il y a des divergences crues, radicales.
De fond, me semble-t-il.
Dans les valeurs de cette gauche réunifiée. Hein. Donc, d'où l'importance qu'il y aura à comprendre, on va dire, la sorte de nécessité morale qui fait qu'on vient surmonter, justement, ces contradictions internes qu'il pouvait y avoir entre les différents groupes. Alors, on le sait, on les connaît, ces différences. Il y a des questions qui sont orientées. Ça a déjà été abordé dans une émission ici sur la question du positionnement par rapport au Hamas et plus largement par rapport à Israël, hein, où il y a une divergence. Hein. On va dire qu'il y a eu presque des rapports d'insultes sur cette question-là de l'intériorité. Et puis, il y a des questions de fond, de divergence de fond, sur le rapport à l'Europe, sur la question de la politique énergétique, de la reconstruction de l'industrialisation. Autrement dit, tout le monde n'avance pas du même pas avec ces rapports-là, qui sont des rapports d'objectifs politiques. Mais pour ce qui nous concerne aussi, ce sont des questions de valeurs. Parce que pour qu'il y ait l'alliance, il faut qu'au fond des fonds, malgré tout, on s'y retrouve dans nos valeurs. Les dialectiques sur les objectifs politiques et les contradictions, c'est une chose et c'est dans la dimension du discutable. Mais en ce qui concerne les valeurs, là on est presque sur les ontologies des rapports de groupe dans de la gauche. Et là ça fait difficulté. Voilà. Alors, bien entendu, je fais l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu ce contexte du trou d'air de la dissolution et le précipité que ça a envoyé dans ce moment-là, il n'y aurait pas eu l'effet de conversion. Au bout du compte, j'expliquerai, si j'ai le temps, ce que j'entends du dénominateur commun de ces valeurs qui fait que malgré tout, on s'y est tenu. Mais c'est quand même un effet quasi de réel toxique qui est venu percuter littéralement les positionnements des uns et des autres, qui a déclenché cet effet de construction, de fabrication de cette alliance.
Dans l'urgence.
Voilà, dans l'urgence. Voilà. Alors donc, on en parlera, hein, mais je crois que c'est important de revenir sur les contradictions pour comprendre à quel point on est dans une obligation morale de la réunification de la gauche pour faire face à l'extrême droite.
Alors, sachant que toute la gauche n'a pas souhaité participer au Nouveau Front Populaire, comme précédemment la NUPES, par exemple, le Parti Radical de Gauche. Alors, vous, Annie Thomas, par rapport à ce qu'a dit Patrick Coste, je pense que vous voulez réagir sur ces contradictions internes dès le départ.
Contradiction et aussi sur cet élément de précipité, comme dans la chimie. Hein, ce que vous évoquez, le mot précipité en chimie, c'est à partir d'éléments diffus, quelque chose se crée à un certain moment à cause de la chaleur,
et qu'on ne maîtrise pas forcément les conséquences.
Mais c'est tout l'art des chimistes, justement, de le maîtriser. Et peut-être qu'on va qualifier ces personnes-là de génieux chimistes.
Si tout a été fait comme il le faut, le résultat nous le dira.
Mais ça m'intéresse, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est ce que je sens. Il me semble que chacun sort de son corps. Vous savez, on sort de son corps, on s'élève. Et je pense que chacun sort de son corps. Mais ce qui était très intéressant aussi, c'est que il n'y a pas de volonté de cacher les divergences. Et je pense que ça, c'est un regard lucide, adulte et responsable. Il y a des divergences. Elles sont connues, elles sont assumées avec du calme. Alors, peut-être faut-il rendre hommage à Raphaël Glucksmann à ce moment du débat, parce qu'il a amené dans la campagne des Européennes du calme, du respect, de l'expression dans ce qu'elle a d'intéressante, d'intellectuelle. Et bien évidemment, pour moi, ce n'est pas une insulte, même si pour certains ça peut l'être, mais ce calme intellectuel me semble à infuser et permet aux uns et aux autres. On voit bien que ceux qui sortent des rails, de temps en temps on sort des rails, il y en a toujours un dans le groupe qui le ramène et qui lui dit « attention, tu sors des rails, hop, et je redresse la barre ». Donc il y a une forme de maîtrise qui est très intéressante. Alors, est-ce que ces contradictions, Monsieur Coste, c'est peut-être ça votre question, vont survivre à une législature? Nous ne le savons pas, personne ne le sait, mais je dirais que le fait de commencer comme cela, de poser les choses avec ce calme et tout ce qui est assumé, peut permettre de progresser, bien évidemment. C'est une construction humaine, hein. Tout ça est une construction humaine, bien évidemment, et l'objectif dépasse tout le reste.
Alors, je vais poser une question à Hugo Sageau. Raphaël Glucksmann a publié une tribune dans Le Monde pour expliquer son choix. Et il a dit que, selon lui, le péril que représente l'extrême droite, c'est ce qui primait surtout. Il a minoré le poids de la France insoumise dans le nouveau Front populaire, où, dit-il, elle se trouve, c'est selon lui, hein, divisée et diluée. Hugo Sageau, est-ce que vous avez le sentiment que la France insoumise se trouve divisée et diluée, sachant qu'elle a quand même 229 candidats issus de ses rangs dans le nouveau Front populaire? Le PS en a 175, c'est plus que dans la NUPES, mais tout de même, il est largement derrière. Et puis vous, je crois que Place Publique, vous n'en avez aucun. Donc comment vous vivez ça?
On en a 8.
Ah.
C'est certes pas énormément, mais j'aime bien le rappeler. Donc je crois qu'on assiste à une recomposition de la gauche. La France insoumise a dominé le débat, il faut le dire, ces dernières années. Il y a eu un résultat à l'élection européenne qui a mis en tête les sociaux-démocrates. Il y a le mouvement de la France insoumise qui devient de plus en plus gazeux. Des courants qui se forment, qui s'affirment extrêmement clairement. Ruffin s'affirme en dehors de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain aussi, Garrido, Corbière, et d'ailleurs ils ont
On va revenir justement sur ce qui est arrivé à
la France insoumise n'est pas un tout. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui commence à se construire en dehors du chef, qui construit avec les autres partis politiques, avec la société civile, qui ouvre sur d'autres personnalités, avec les Verts, avec les socialistes, avec les communistes. Et donc je crois qu'on assiste à une véritable recomposition de la gauche, avec un équilibre qui est en train de se créer. Et d'ailleurs, face à cet enjeu-là, celui de la prise de pouvoir, ça nous pousse, l'ensemble des organisations de gauche, à trouver un point d'équilibre. Et d'ailleurs, je le dis, Raphaël Glucksmann l'a dit, Place Publique l'a dit, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, pour la simple et bonne raison que pour faire émerger une personnalité, il faut qu'il y ait un consensus. Et Jean-Luc Mélenchon ne fait pas du tout partie de ce consensus, étant donné qu'il reste extrêmement clivant au regard des forces en présence. Et il faut le dire, actuellement, d'ailleurs, la France Insoumise n'a pas la majorité par rapport aux autres groupes de gauche, parce que si on assemble les communistes, les Verts et les socialistes, il y a une voix de plus. Et donc, lorsqu'il s'agira peut-être de déterminer une personnalité qui incarnera le premier ou la première ministre, les équilibres seront autres. Et donc, pas d'inquiétude. Je veux rassurer les électeurs qui ont voté Raphaël Glucksmann. Ce ne sera pas, à mon sens, Jean-Luc Mélenchon premier ministre. Et les équilibres commencent à arriver et à se mettre en place.
Patrick Coste, vous voyez les choses comme Hugo Sageau. Vous pensez qu'effectivement, la France insoumise est diluée, comme le dit Raphaël Glucksmann, dans le mouvement du Nouveau Front Populaire, dans la coalition du Nouveau Front Populaire, et que quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas avoir une majorité de députés, même en ajoutant toutes les autres parties de gauche de cette coalition. Avoir le résultat des élections tout de même, hein, parce que ça, ce sont des candidatures.
Moi, j'avais indiqué que j'appuierais la question des contradictions, de telle manière à ce qu'on soit sur un rapport de la contradiction à la synthèse, ensuite, et qu'on essaye de réfléchir.
Je reconnais votre formation philosophique.
Voilà, on va dire que c'est du marxo et hegelianisme dans le texte. Mais au-delà de ça, je veux dire le concept de compromis historique, hein, qui fait partie aussi des mouvements de lutte de gauche historique, hein, en particulier chez les Italiens. On y est là. Et au-delà, je le disais, des questions des dialectiques sur le plan des enjeux politiques, des répartitions des casquettes, de mandats des uns et des autres, la contradiction, j'entends la soulever au niveau des valeurs.
On en revient toujours à ça.
Parce que c'est sur le fond, c'est sur ce fond-là que, quelque part, il peut y avoir une famille de gauche, ou ne pas en y avoir. Alors, sur le plan des valeurs, il me semble quand même qu'il y a, dans ces gauches, au pluriel, une ligne de fracture. Encore une fois, que j'entends ici plutôt souligner, de façon délibérée. Cette ligne de fracture, c'est on a d'un côté ce que l'on pourrait appeler une gauche social-démocrate. Il faudrait resituer là, ici le Parti communiste et les écolos, mais ici il y a quelqu'un qui est dans la lignée de Glucksmann, Annie Thomas et de la CFDT. Ce sont quand même des bases traditionnelles de la social-démocratie qui entend qu'il y a une articulation qui se fait entre la question du social, la question d'un devenir de l'égalité dans le collectif, et ça c'est vraiment un des vecteurs très forts de la gauche traditionnelle et aussi de la social-démocratie, mais qui est dans une articulation avec la production, la richesse et un monde qui est un monde capitaliste et qui doit arriver d'une certaine façon à trouver la bonne mesure entre l'égalité et cette dimension capitalistique. Et c'est ce qui constitue un peu le noyau dur de la social-démocratie. De l'autre côté de la fracture de cette gauche, on a d'abord une gauche révolutionnaire, c'est-à-dire une gauche de rupture, qui est sur un autre tropisme du rapport aux politiques. D'abord, elle est très largement anticapitaliste, hein, on pourrait revenir là-dessus, où la dimension finalement du travail, du social, devient la définition hégémonique de ce rapport aux politiques. Donc là déjà, on est dans autre chose. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un tropisme, je l'avais déjà dit dans une autre émission, du rapport d'opposition aux politiques qu'on trouve chez beaucoup de jeunes, qui se situe dans une sorte de positionnement de la victime d'époque. L'Occident a fauté, il y a un manque d'avenir, et donc par conséquent, il y a une sorte de position de radicalisation, de rupture par rapport à ce monde-là, pour lequel les pays du Sud deviennent une sorte de bateau que l'on va défendre du côté des victimes, et la Palestine en étant le drapeau. Et je crois donc qu'entre les valeurs de ces sociodémocrates et ce tropisme de la politique qui prend une autre langue, il y a une différence. Et donc il va falloir reconstituer des valeurs en deçà de cette fracture-là, de telle manière à se mettre en position de résistance par rapport à l'extrême droite.
Mais vous croyez que c'est possible ?
Alors, ce que je crois...
Dans la durée, je veux dire.
Ce que je crois... Bon,
là, on a compris que...
Je vais le dire assez simplement... dans le camp des ennemis, parlons avec des mots un peu durs, il y a des ennemis politiques là, dans cette situation. Et ces ennemis politiques ils développent une politique de la haine. C'est-à-dire qu'on a déplacé la question de la victime sur la désignation d'un ennemi émissaire. Bon. Et c'est évidemment une conception de la République qui est une conception de la République de la division et de la toxicité dans les rapports à autrui. Bon. Et ça, un humaniste de gauche, il ne peut absolument pas partager cela.
Il peut pas s'asseoir dessus.
Et donc, quelque part, il y a un sentiment à cet égard, une valeur commune, qui fait que ce dénominateur-là de la gauche, il revient comme étant la condition de cette résistance par rapport à ce phénomène-là. Mais de surcroît, j'aurais envie de dire, il y a quelqu'un qui est plus jeune, et on est deux à être sur des générations un peu plus âgées, on est aussi des héritiers d'un combat par rapport à ça. Et par exemple, pour ce qui me concerne, dans ce vote contre le Front National, je suis aussi dans le respect de la mémoire de ceux qui ont combattu avant nous par rapport à cette question-là. Et c'est très important. Il y a une tradition de gauche, et on s'inscrit dans cette tradition de gauche. Et c'est ce pourquoi on est en dette vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés par rapport à ça. On ne peut pas les lâcher. Voilà. Elle est là, la valeur commune. Mais elle est au-delà. C'est une croyance, c'est une profession de foi contre la haine. Et elle est au-delà de ces fractures sur des conceptions politiques entre la social-démocratie et une position qui est une position de rupture anticapitaliste.
Alors certains vous répondraient sans doute à droite que la haine existe aussi de l'autre côté. On va venir à ce qui se passe à la France insoumise concernant les purges, ce que certains ont appelé des purges, y compris parmi les militants de ce parti. Les purges, les noms ont déjà été cités. Il y a Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet, donc qui n'ont pas été reconduits comme candidats dans les circonscriptions dont ils sont élus à ce jour. Est-ce que ce terme de purge vous semble adapté à ce qui vient de se passer à la France insoumise, Annie Thomas?
Alors, non. Pour moi, ce n'est pas une purge, hein, comme on pourrait la qualifier, comme on pouvait qualifier les purges dans le régime soviétique ou dans d'autres types de régimes. On n'en est
pas
là.
Voilà, ça fait référence très exactement à ça.
Mais bien sûr. Voilà. Mais le mot est très fort. Mais
Je signale que je l'ai lu sous la plume de gens qui sont à la France
absolument.
Insoumise.
Oui, c'est peut-être même les premières victimes.
Il y a eu des communiqués. Il y a eu des communiqués qui ont circulé, qui me sont arrivés parce que les journalistes, on les reçoit. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais voilà.
Non, mais vous avez raison, le terme a été utilisé, mais pour moi, ça n'est pas une purge. Par contre, je souscris à ce que vous disiez tout à l'heure, Hugo, à savoir qu'il est intéressant aujourd'hui d'observer le fonctionnement de la France insoumise, et donc effectivement, on est avec des mouvements, des différences, des positionnements, mais il y a un pouvoir central. Mmh. Et là, quelque part, c'est un système... je dirais marxiste, mais parfois un peu stalinien aussi. J'ose un petit peu l'adjectif.
Donc c'est pas des purges, mais le fonctionnement fait penser
voilà,
à ce qui se passait sous Staline.
Mais oui, mais malgré tout, voilà, il y a une tendance stalinienne, je dirais, pour ne pas. Mais ça met l'accent aussi sur un point qui est très important, c'est que la France insoumise, en tant que mouvement parti, n'a pas un fonctionnement démocratique. Je pense qu'il faut le dire à nos lecteurs, c'est-à-dire un fonctionnement démocratique, c'est un congrès qui se réunit régulièrement avec des motions, des amendements, des textes débattus, des pourcentages, je vote pour, je vote contre, une liste officielle et surtout une élection ensuite d'un certain nombre d'institutions ou d'instances. Et là, on le sait très bien, c'est une obscure commission chargée des investitures dont personne ne sait en interne qui l'a élu. Pratiquement, ça ne veut pas qui est dans la commission, qui décide des investitures. Donc, il y a un vrai problème de fonctionnement démocratique au sein de la France insoumise. C'est très intéressant parce que cet épisode permet de le montrer au grand jour. On a pu le dire parfois, c'est connu, hein, les journalistes le savent, les politologues aussi, le grand public ne le sait pas. C'est-à-dire, la France insoumise n'est pas une organisation comme les autres, elle ne passe pas par le même système, voilà. Alors ensuite, au niveau des talents, franchement, c'est idiot, parce qu'en Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière et Raquel Garrido, je dirais, sont très connus, sont très appréciés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils restent candidats sur leur propre bannière, espérant qu'ils vont être élus. Donc, s'ils sont élus, vont-ils aller à la France insoumise ou ailleurs? On les accuse, vous avez entendu, on les a accusés de ne pas les prendre parce qu'ils iraient siéger à l'autre. Mais bon, s'ils sont élus, j'espère qu'ils n'iront pas siéger à la France insoumise. C'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, une chose tout de même, Hugo Sajot, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme a dit Thomas, que le fonctionnement de la France insoumise en interne n'est pas démocratique?
Je crois qu'il y a beaucoup à redire sur la démocratie interne de la France insoumise, effectivement.
Alors, sachant cela, si vous êtes d'accord avec Annie Thomas, je pose d'ailleurs la même question à vous trois. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant que des gens issus d'un parti dont le fonctionnement n'est pas démocratique puissent arriver demain au pouvoir en France? Et vous êtes dans leur coalition.
C'est une des contradictions que M. Coste nous a présentées.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça fait partie des contradictions. Il faut voir ce front aussi comme l'alliance d'autres partis qui ont d'autres manières de fonctionner, qui ont d'autres cultures démocratiques. Et donc s'arrêter, pardonnez-moi, peut-être que je mettrai un peu moins d'eau dans le moulin que vous voulez ouvrir, mais je crois que
l'urgence
politique et la crise démocratique à laquelle on pourrait faire face est trop grande pour qu'on prenne autant de temps à commenter la vie politique interne de la France insoumise. Vraiment. Je crois qu'il faut que ce soir, on se concentre sur les propositions politiques, sur l'espoir que procure ce Front populaire. Annie a très bien résumé la situation. Pour ma part, je m'abstiendrai de continuer à commenter cela.
Patrick Cosse, vous êtes d'accord? Il ne faut pas s'arrêter à ça?
Enfin, sur l'histoire de la conception bureaucratique, hein, je ne sais pas si elle est stalinienne, parce que là, c'est quand même sévère. Mais
certains jeunes dans ce parti qui font que, pour certaines personnes, pas toutes évidemment.
J'ai connu un Mélenchon.
Chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit.
J'ai connu un Mélenchon il y a bien longtemps qui se défendait beaucoup de ne pas l'être stalinien. Et donc, par conséquent, je pense qu'il a aussi...
Sa formation est trotskiste, c'est pas un secret. Bon, voilà, alors...
ce qui est déjà un indice
de... Il vous dira, je ne suis pas Staline. Hein.
Et déjà un indice de subversion à la bureaucratie stalicienne. Enfin, bon, on va pas s'y apesantir. Alors oui, mais ça tombe sous l'évidence qu'il y a un problème de démocratie interne dans ce mouvement.
Ça, apparemment, vous êtes tous d'accord.
Voilà.
Mais est-ce que ça pose un problème ?
Bon, c'est à dénoncer, bien entendu. C'est pas acceptable. Il y a un certain nombre de gens en interne dans ce parti qui ont été littéralement scandalisés. Et ils avaient raison de l'être. Et ceux qui se sont exprimés là-dessus, tant mieux quand même. Bon.
Maintenant, il y a des gens qui ont pas leur
maintenant, je suis d'accord avec Hugo sur un moment comme celui-là. Qui est un moment historique, il faut hiérarchiser les ordres d'importance. Bon. Et je suis... Et comme on est dans une situation de crise, on est susceptible de faire des procès d'intention dans tous les détails. Et au contraire, je crois que sur un moment qui est historique, une attitude de raison, c'est de savoir hiérarchiser les ordres d'importance. Imaginons, allez, donnons-nous une petite image là. Imaginons les Jeux Olympiques face au monde entier, avec Bardella, Premier ministre, on est le pays de la Révolution, des droits de l'homme. Dans notre diplomatie internationale, ça reste des atouts importants de la relation à la France avec le monde. Et je veux dire, faire figurer l'extrême droite au niveau des Jeux Olympiques, c'est un juron historique. Voilà. Et c'est ça qu'il s'agit de hiérarchiser par rapport à ces phénomènes humains trop humains, de rivalité d'égo sur des phénomènes de pouvoir qu'on ne connaît que trop et qu'on retrouverait aussi chez les autres. Hein, à des degrés plus ou moins prononcés. Je peux dire que, y compris dans ma vie personnelle, du pouvoir et des impasses du pouvoir et de l'obscurité du pouvoir, j'en ai rencontré partout. Bon, alors là, bien sûr, il faut en juger, parce qu'on est sur la dimension de la représentation politique, et il faut donc l'accuser. Mais enfin, ceci dit, il faut remettre les choses à leur place aussi par rapport à ça.
Annie Thomas, et on termine sur ce premier sujet.
Je voulais revenir sur un point précédent que vous aviez abordé, M. Coste, qui n'est pas celui-ci, mais qui était sur les deux lignes de fracture un peu de la gauche. Et c'est vrai que vous avez défini très bien la social-démocratie. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, le président Macron a fait le choix d'ignorer les corps intermédiaires, a fait le choix de ne pas accorder au dialogue social entre les partenaires sociaux la place qu'il mérite dans une démocratie. On constate son échec. Donc, que la social-démocratie, par le biais de la candidature de Raphaël Guzman, ait repris une forme, je dirais, sa place, voilà, sa place, tout simplement, c'est aussi à mettre en relation avec l'échec de Macron. C'est-à-dire que Macron, lui, qui se revendique en permanence de la social-démocratie, ne l'a pas été. Il n'a marché uniquement sur sa jambe étatiste, sur sa jambe volontariste, sur sa jambe gouvernementale, et ne s'est pas appuyé ni sur la société civile, ni sur les corps intermédiaires, ni sur le dialogue social organisé, ni sur le paritarisme. Et j'ai eu souvent l'occasion d'en parler ici, en tant qu'ex-présidente de l'UNEDIC, la manière dont l'assurance chômage a été traitée et l'UNEDIC est traitée, c'est catastrophique de sa part, à tout point de vue.
Et vous pensez que c'est entre autres cela qu'il a payé dans les urnes, que son parti a payé dans les urnes aux européennes?
Je le pense sincèrement.
Patrick Cosse, on termine.
Oui, il y a, tout le monde le dit, il y a un phénomène Macron. C'est une sorte de tribun spéculatif et qui est piégé dans une sorte de mégalomanie en termes de personnages. Et donc, évidemment, ça distribue un rapport aux politiques par rapport au corps intermédiaire, par rapport à la délégation, etc., qui se retrouve à tous les niveaux, toutes les strates. Ça, c'est le personnage. Mais je pense qu'il y a une question, alors pour le coup, qui est vraiment dans le corps du politique dans la période. Et je vais essayer de m'en expliquer. Macron, qui peut s'exprimer comme étant au centre, moi, j'aime bien la notion d'extrême-centre.
Oui, ben, ça a souvent été employé à son sujet.
Et cette notion d'extrême-centre, ça veut dire qu'en fait, on est sur une position politique qui est sans idée et dont la finalité est simplement d'un pragmatisme où on essaye au maximum d'éviter tout ce qui pourrait empêcher les rapports de concurrence. C'est l'ordolibéralisme, c'est une idéologie qui a été inventée dans les années 30, mais d'une certaine façon, avec sa position politique d'extrême-centre, il est dans cette sorte du neutre du pragmatisme, sans idée.
Enfin, Monsieur Coste...
Et donc ça, c'est susceptible par rapport à ça, mais la neutralité que je présente ici, à partir du moment où je la suppose enracinée dans une logique, celle de la logique libérale de la concurrence, c'est pour moi une critique féroce, hein, entendons-nous bien, sur les mots. Mais ça implique que les phénomènes d'hyperpolitisation qui peut y avoir dans les radicalités, c'est aussi un effet de syntaxe du politique entre cet hypercentre et les phénomènes d'extrémité qui ont pu se développer. Et ça, c'est pas simplement qu'un phénomène français.
Oui, c'est pour ça aujourd'hui on parle surtout d'extrême gauche, d'extrême droite et même d'extrême centre. Vous vouliez peut-être réagir
extrêmement rapidement. J'ai cru comprendre au fur et à mesure de la philosophie de votre pensée, mais moi je crois que c'est pas tout à fait neutre d'avoir choisi la loi immigration. Je crois que c'est pas tout à fait neutre d'avoir supprimé l'ISF. Je crois que c'est pas tout à fait neutre d'avoir choisi de taper sur les plus précaires d'entre nous avec la loi sur l'assurance chômage, sur la loi retraite aussi, particulièrement de mon point de vue inégalitaire. Alors, en entendant aussi la critique que vous faites de tout cela, ça n'est pas neutre. C'est une politique qui est clairement libérale du point de vue économique, qui est à droite du point de vue des valeurs. Et c'est cette politique que nous voulons aussi à laquelle nous voulons mettre fin avec le Front Populaire.
Allez,
Genevieve.
Oui, mais non, on va peut-être arrêter là parce que ça pourrait rebondir comme ça jusqu'à la fin de l'émission. On va clore pour aujourd'hui ce débat consacré à ce qu'on pourrait imaginer être des tensions au sein du nouveau Front Populaire, apparemment qui sont dépassées. En ce moment, on verra dans quelques semaines. On va s'intéresser maintenant dans quelques instants à ce qui se passe à droite, parce que là aussi, c'est pas triste non plus. Courte pause en attendant et on se retrouve pour en parler dans une vingtaine de secondes. Merci Manel, à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info. Éric Dupri.
Nous revoici, retour au direct avec Annie Thomas, Patrick Coste et Hugo Sajot. Donc, si des tensions, règlements de compte, disgrâce, bisbis peuvent exister à gauche, notamment à la France insoumise, malgré l'accord trouvé pour des candidatures d'union, plusieurs événements ont également agité la droite de l'échiquier politique depuis 9 juin. en premier lieu chez les Républicains, après l'épisode tragicomique provoqué par Éric Ciotti, mais aussi à Reconquête, où le trio Zemmour-Knafo-Maréchal a explosé, la troisième étant exclue du parti pour revenir au bercail du Rassemblement National. Est-ce que vous avez été étonné par les comportements des uns et des autres dans ces affaires internes? Et comment les expliquez-vous? Est-ce qu'il faut y voir des querelles d'égo, ou plutôt l'expression d'ambition personnelle, ou encore de vrais désaccords de fond, stratégiques ou idéologiques? Patrick Coste.
Bon, y a une phrase de Clémenceau qui dit que pour regarder un homme politique, il faut, plutôt que de regarder sa tête, regarder ses pieds. Et là, en l'occurrence, si on pense à Ciotti, ce qu'il a au niveau des pieds, c'est évidemment la protection d'un mandat. Et que je fais l'hypothèse que cette dimension-là a été... déterminante par rapport à son choix. Ce qu'il faut reconnaître au niveau de la droite, des LR, il y a quand même une tradition aussi gaulliste, chiracienne, qui a été vraiment en opposition avec les extrêmes droites. Et là, l'état-major de LR ont fait front aussi de leur côté par rapport à cette singularité intéressée qui était celle de Ciotti. Ensuite, quand même pas oublier que quand il a été élu président de son parti, et je dois dire que j'ai suivi ça un peu de loin, veuillez m'en excuser, mais le peu que j'ai aperçu, il y a eu quand même chez les LR un durcissement droitiste et d'extrême droitiste par rapport aux questions de l'immigration, et il emportait sur cette thématique. Donc il y a bien un cousinage idéologique entre l'extrême droite et Ciotti. Enfin, le pas franchi me semble pour beaucoup au niveau des pieds de Ciotti plutôt qu'au niveau de sa tête.
Qu'est-ce qui s'est passé à Reconquête avec Marion Maréchal?
Alors là aussi,
c'était écrit pour vous?
Là aussi, je suis peut-être pas le mieux placé pour en faire un commentaire approfondi de ce rapport-là. Quoi qu'il en soit, enfin de très loin, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu des divergences entre Maréchal Le Pen et le Front National, qui étaient des rivalités où le mélange entre les affects, les phénomènes de famille, etc., ont eu leur raison d'être. Et son ralliement était incongru là, à Reconquête. Elle revient au bercail. Parce que les intérêts, là aussi, des uns et des autres se sont redistribués autrement. Bon, mon analyse est assez prosaïque sur cette situation, mais peut-être à tort. Hein. Voilà, de loin, je l'aperçois comme ça.
Il est possible qu'à Reconquête, il y ait eu des choses encore plus prosaïques, mais on ne peut pas trop en parler. Vous savez, les jalousies entre femmes, par exemple. Alors, Hugo Sajot, vous, bon, je sais que c'est pas du tout... vous êtes de notre rive, mais vous avez observé quand même ce qui se passe. Peut-être que ça vous réjouit, peut-être que ça vous accable, que vous atterre, peut-être que ça vous indiffère.
Ça m'indiffère, mais je vais commenter, puisque vous m'avez invité et j'honore votre invitation. Je crois que les Républicains, c'est à droite toute. Ils n'ont plus de boussole politique. Et je crois que le ralliement de Ciotti va avec cette droitisation du parti Les Républicains qui va... avoir une stratégie très rationnelle, c'est d'aller chercher un électorat, et donc qui sort de ses valeurs les plus fondamentales, c'est-à-dire l'attachement à la République. Donc à droite toute, Ciotti est devenu pour moi fou, il tue son propre parti, et puis il est le symbole de ces femmes et ces hommes politiques qui ne cherchent que... à se faire réélire, qui ne cherche que la professionnalisation de la politique. Ciotti, avant d'aller voir l'extrême droite, il est allé voir Emmanuel Macron, qui lui a dit non, ça ira, merci. Donc on voit bien que son objectif, il est purement personnel. Et je note aussi d'ailleurs la radicalisation des jeunes républicains, puisque dès que Éric Ciotti a fait ce choix-là, vous avez entendu Guillaume Carayon, le responsable des Républicains, au nom des jeunes républicains, le suivre. Et donc c'est extrêmement inquiétant que aussi dans les organisations de jeunesse on ait cette radicalisation en dehors de toute valeur républicaine, puisque ce parti-là quand même dans la lignée du gaullisme était républicain, il ne l'est plus depuis qu'il a adopté les thèmes et les thèses de l'extrême droite. Ensuite, en ce qui...
Pour vous, tout le parti a adopté les thèses de l'extrême droite. Mais pour vous, Ciotti est représentatif, finalement, d'une majorité.
Peut-être qu'il reste une aile républicaine. Je crois qu'elle est du côté d'Emmanuel Macron. Voilà où est, de mon point de vue, la recomposition politique. La droite républicaine, c'est la droite et libérale du point de vue économique, c'est la droite d'Emmanuel Macron. Ensuite, il y a un autre bloc, c'est le bloc d'extrême droite, avec Ciotti qui rejoint. Après, je n'ai pas une connaissance parfaite de qui est où... Qu'est-ce qu'il reste du Parti des Républicains? Peut-être parce que ce n'est pas ma priorité.
Alors, Annie Thomas, Suco Sajodi, Ciotti est devenu fou. Mais est-ce qu'il n'est pas en fait très rationnel?
Et
en fait, son choix reposerait sur une observation à l'intérieur du parti, chez les militants, chez les électeurs.
C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, c'est ce que pense la majorité des adhérents et des militants. Mais... la pierre dans son jardin, c'est qu'à aucun moment il n'a mis en place un processus démocratique pour que ce soit acté. On a beaucoup parlé de démocratie au cours de cette émission, et j'en rajoute une couche. Les deux bords de LR, tous les deux ont été antidémocratiques. Le président, il s'en va à TF1 au journal pour dire... on va faire alliance avec le Front National.
Sans consulter les autres dirigeants du parti.
Les journalistes lui demandent, font leur travail. J'étais là, je l'ai vu. C'est une décision personnelle ou bien c'est une instance qu'il a décidé? Il dit, mais parce que c'est comme ça, point final. Donc évidemment, il n'y a pas eu d'instance qui a décidé. Les autres, les opposants, le bureau politique, ils ne savent même pas lire leur statut. Ils font un bureau politique...
Pour l'exclure.
Ça tombe à l'eau et la justice a le dernier mot, parce que c'est ça la République et c'est ça la démocratie, c'est que c'est la justice qui a le dernier mot et la justice a le dernier mot et on a une pièce de théâtre comique, tragicomique. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Donc une décision qui est aussi importante que celle-là, aucun moment, aucune instance, les adhérents, les militants n'ont pas été consultés, c'est grave. Je trouve que c'est extrêmement grave. Le bureau politique qui devrait être là à la digue, il n'est pas capable de le faire. Donc effectivement, le parti va mal. Mais je vais vous surprendre parce que je suis pour que les Républicains continuent d'exister. Moi, je suis pour que les partis existent comme les syndicats. Une démocratie a besoin de partis. Celui-là va très mal. Il a été à une époque plus brillant, il a été à une époque plus constructif. Je souhaite que le parti demeure réellement, hein, je le dis tout net. Et quant à Reconquête, alors là, bravo, eh bien, si ça n'était pas aussi sombre, je rirais vraiment, parce que tout ça est très cruel, tout ça est magnifique, tout ce nid de vipères là, qui est en train de s'agiter. On a une grande blonde qui est morte d'ambition, qui voit le vent tourner, parce qu'il s'agit de ça. Le vent a tourné, soyons clairs, et qui rejoint la famille, parce que la famille Le Pen, ça tient, c'est une mafia, soyons clairs, donc elle rejoint
Alors
la mafia.
On va employer le terme de clan, oui. Le clan, ça
le
va
clan.
Bien.
Elle rejoint son clan. Et quant à Zemmour, il est ridiculisé, ce qu'il déteste, bien évidemment.
Vous croyez que ce parti-là ne survivra pas à ce qui vient de se passer? D'autant plus qu'a priori, il n'aura pas d'élu hein, aux législatives.
Eh bien, c'est un parti qui est très naissant. Il a quelques militants, je ne dis pas qu'il n'y en a pas.
Ah, il y en a même
voilà.
Beaucoup, oui.
Donc, c'est maintenant la traversée du désert. Ils ont eu une campagne présidentielle, ils ont pu présenter des candidats, ils ont été rejoints par Mario Maréchal. Enfin, voilà, donc on avait l'impression que tout ça allait très, très bien. Maintenant, c'est la traversée du désert. On verra si c'est un parti, Eric. Un parti doit survivre aux épreuves. On verra. Et les Républicains, pareil, ils doivent survivre à leurs épreuves.
Patrick Cosse, vous pensez que les Républicains vont survivre à ce qui vient de se passer, d'autant plus que bon, on peut s'attendre à ce qu'ils perdent encore quelques élus, quelques députés, déjà qu'ils en avaient perdu beaucoup à l'élection 2022. Vous pensez que le parti ne risque pas d'imploser après tout ça?
D'abord, je rejoins Annie Thomas là, sur la question de Hugo, je crois qu'il a dit aussi, sur l'importance des partis. C'est quand même des rassemblements de positions d'idées. Et dans une démocratie, on a besoin quand même d'un rapport d'idées et de débats. Parce que c'est aussi comme ça qu'on construit la politique, la maison politique avec les débats. Et donc, Annie Thomas a insisté, et ça fait partie aussi de son parcours, sur les corps intermédiaires. On pourrait pas parler de Tocqueville, la démocratie et de l'importance des corps intermédiaires. C'est comme ça que les significations, de toute façon, de la communauté peuvent s'architecturer avec les corps intermédiaires et les représentations. Donc je souscris à ce qui était dit. Ensuite, la question, c'est de la survivance des uns et des autres. Ciotti, en prenant ses décisions unilatérales, lui aussi, ça, on a l'impression quand même d'une sorte de sabordage, hein, en termes du fonctionnement du parti. Il prend un coup, ce parti, avec dans l'image qu'il a donnée cette fois. C'est un choc pour les Républicains, pour les gens qui adhèrent à ce mouvement. C'est un moment de honte. Bon, donc de toute façon, ça va avoir un certain nombre de... ça va laisser des traces et des effets. Je ne suis pas en capacité de dire quelle va être la survivance ou pas, parce qu'en plus, la conjoncture politique est tellement complexe, et les alliances et les reconstructions des uns et des autres, telles que c'est en train de faire. On parlait tout à l'heure de chimie, des synthèses disjonctives entre les électrons dans des rapports irrationnels. On peut dire qu'on est vraiment dans cette soupe en ce moment. Donc je ne peux pas jurer.
On sait pas ce qui va en sortir.
Je ne peux pas jurer de la survivance. Et pour Maréchal Le Pen, ça a été dit. Si c'était au moins une tragédie grecque, ça nous permettrait un peu de prendre de la hauteur. Mais là, on est dans le caniveau, quoi. Au niveau de cette situation, j'ai pas d'autres commentaires à faire.
Oui, oh, c'est un peu fait d'eau la biche aussi. Annie Thomas, parce que finalement, ça pourrait pas être bénéfique au sens où ça clarifierait un petit peu les choses au soir du 7 juillet.
Je pense que les choses se sont clarifiées, bien évidemment, déjà au sein de Reconquête. La clarification au sein des Républicains, elle n'est pas faite encore, à mon sens. Les Républicains,
est-ce qu'elle pourrait se faire?
Ce n'est pas que Ciotti et ce n'est pas que le bureau politique.
Non.
Ils ont un réseau d'élus,
ils
ont le Sénat, ils ont des sections départementales, ils ont des cercles intellectuels aussi. Donc, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un choc. Mais après un choc, soit on reste dans la léthargie, soit on réagit. Et je pense qu'il va y avoir une réaction. C'est certain qu'il va y avoir une réaction. Alors, est-ce que ça va être le soir même en comptant les résultats? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y aura une réaction.
Ils sont très implantés au local.
Ah oui,
donc ils ont une existence de toute façon vivante.
Ils auront encore un groupe à l'Assemblée.
Par rapport à ça, au Sénat,
et le Sénat,
ça ils le gardent.
Ils ont encore une vitalité.
On
parlait de survivance, ils ont quand même ces inscriptions-là.
La suite au prochain épisode, et il est probable qu'il y en a encore plusieurs d'ici le premier tour des législatives le 30 juin, on peut compter sur nos politiques pour amuser la galerie dans les semaines à venir, même s'ils ne sont pas toujours drôles. Il nous reste quelques instants pour vos coups de gueule ou coups de cœur du jour. On va commencer avec Hugo Sajo. Je suis sûr que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule.
C'est un coup de gueule. Aujourd'hui, on est le 20 juin. C'est la journée mondiale des réfugiés. Il y a plus de 117 millions de réfugiés partout au monde, l'an dernier en tout cas. Et aussi des milliers de morts, plus de 10 000 l'an passé. Et je crois que cela veut dire beaucoup aussi dans le moment politique que nous vivons. Je crois que la France doit être à la hauteur de la Déclaration des droits de l'homme. La France doit être à la hauteur du récit humaniste qu'elle a porté. Je crois que l'Europe est un continent multiculturel qui doit se réveiller au soir du 30 juin et du 7 juillet. Et voilà, le coup de gueule que je voulais émettre ce soir, c'est dire à nos auditeurs, n'oubliez pas cette histoire, l'histoire de cette Europe qui est faite de diversité. Et puis avec le Front populaire, nous porterons aussi des mesures, l'intégration, la dignité, l'accueil, qui sont des valeurs fondamentales, la solidarité, le partage. Voilà le message que je voulais faire passer. On risque de revenir aux heures les plus sombres de l'histoire et donc j'appelle à un réveil de l'ensemble des humanistes de ce pays.
Thomas.
C'est un coup de cœur qui n'est pas si éloigné. Le coup de cœur, en fait, c'est d'apprécier le succès du film qui s'appelle « Un petit truc en plus ». qui valorise la place des handicapés et qui a été tourné avec des handicapés, dont l'un d'entre eux habite à Blagnac, je le connais, c'est pas très loin de chez moi. Et c'est le plus gros succès actuel au box-office français. Donc ça me fait du bien aussi, parce que je vois qu'il y a un intérêt pour ça, dont les Français ont du cœur.
Patrick Coste, très vite.
Je vais revenir à mes anciennes activités. Là, on avait dit que j'étais un cadre de l'éducation nationale. On est dans une période, là, dans les établissements scolaires, où on est en train de construire l'année prochaine, sur le plan scolaire. Le choc des savoirs est passé par là, qui fait qu'il y a un conditionnement de l'organisation qui est donné par le coup de menton d'autorité d'Attal par rapport au fonctionnement de l'éducation, ce qui fait qu'il y a une perte complète de l'autonomie. Et les enseignants sont pris dans des valeurs qui sont des valeurs de la discrimination des niveaux. Et c'est vraiment contraire complètement, on a parlé des valeurs dans cette émission, c'est vraiment paradoxal par rapport à l'identité des enseignants. Et donc cela, ils doivent l'avaler dans leur pratique et dans leur fonctionnement. Mon hypothèse, et ce qui grince en ce moment dans ce système de l'éducation, va bientôt ressortir sur des modes de résistance que l'on ne suppose pas.
Eh bien, rendez-vous sans doute à la rentrée pour en reparler. Cette 158e année de l'info est terminée. Merci infiniment à vous trois d'en avoir été les invités et les débatteurs. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour le dernier numéro de la saison. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.